Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
Il y a longtemps que le Parti conservateur du Québec avait été aussi déterminant dans une élection au Québec. On a au bout du fil la présidente de la campagne conservatrice, Josée Vernaire. Bonjour.
Bonjour.
Aussi sénatrice indépendante.
Exactement.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a amené à faire une sorte de retour en politique active? Parce que là, vous n'êtes plus indépendante pour ce qui est de la politique québécoise. Vous êtes vraiment engagée dans un parti particulier.
Absolument. Effectivement, je pense que l'adage qui dit qu'on ne doit jamais dire jamais a pris toute son ampleur quand Éric Duhaime m'a contacté lorsqu'il était en réflexion là pour prendre pour faire la course au leadership du Parti conservateur. Or, je connaissais quand même Éric là depuis un bon moment, depuis plusieurs années en fait. Et puis je connais sa passion et son authenticité, sa spontanéité aussi. Et j'ai considéré que ce serait bien pour moi de l'appuyer. Ce serait bien pour lui, puis ce serait bien aussi qu'il y ait une autre voie, une autre option différente. Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'embarquer, de faire une pause dans ma décision de ne plus faire de politique, d'émettre des parenthèses, si vous voulez.
Oui, oui, oui. Moi, ça m'a surpris un peu parce que je me souvenais que vous aviez appuyé Geneviève Guilbeault en 2017, donc la caquiste, lorsqu'elle s'était fait élire là, dans la fameuse partielle qui a tout lancé pour la CAQ. Donc, est-ce que vous reniez cet engagement-là?
À l'époque, là, écoutez, je l'ai fait, comme bien d'autres, hein, vous le savez, là, je pense que c'est devenu presque, comment je dirais bien, donc une expression de dire là que les gens s'étaient trompés ou avaient regretté ou avaient déjà voté CAQ et ils changeaient d'idée. Mm-hmm. C'est mon cas. Écoutez, à l'époque, je l'avais appuyé. Je considérais selon ce que il nous offrait comme programme. Je trouvais que c'était différent de toujours avoir une option de les libéraux contre les péquistes ce type-là. Et puis je me disais, ça va être différent. Il y a des choses qui nous offrent qui conviennent à mes valeurs. Alors je m'étais dit, bon, moi, je pense que c'est le temps d'essayer une option nouvelle. Et puis finalement, ben, ils n'ont pas rencontré nécessairement là les attentes que j'avais. Et la création, en fait, on dit la création du Parti conservateur du Québec, en fait, il était quasi inexistant. Là. Adrien Pouliot a fait de grandes choses. Il l'a maintenu.
Oui, ça a été le chef qui a précédé Éric Duhaime, pour ceux qui s'en souviennent pas, oui.
Absolument. Puis je pense qu'il a fait un travail absolument extraordinaire de le maintenir, de maintenir le parti en vie. On se rappellera que et on pourra peut-être conclure avec le PCQ que c'est un peu comme la DQ nouvelle version.
Ah oui.
Et à l'époque, moi j'appuyais votre maintenant collègue là, Mario Dumont, oui. À la DQ dans les années au début des années 2000. Et quand Mario a quitté, puis que la CAQ a fusionné avec la DQ, il y a bien des gens qui se sont retrouvés un peu orphelins politiques.
Oui.
On s'est dit, bon, ben coudonc, OK, laissons une chance avec la CAQ. Ils avaient promis un certain nombre de choses. Et puis, suivons ce mouvement-là. Mais comme je dis, moi, j'avais des attentes qui ne se sont pas avérées. Puis,
comme par exemple, il me semble que c'est pas précis. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui a contribué à votre déception?
Il y a beaucoup de choses qui ont contribué à ma déception, notamment le fait qu'on aurait dû avoir du privé en santé. Alors, il y avait une espèce d'entente là lorsque la CAQ a approché la DQ pour une fusion de créer un projet pilote à Québec de médecine, d'ajout là, de contribution du privé en santé.
Oui.
Ça ça n'a pas été fait. Et clairement, c'était pas dans les c'était pas dans les plans non plus. L'autre chose aussi qui m'a désappointé.
Qu'est-ce que ça amènerait Oui, l'autre chose qui vous a désappointé, allez-y, oui. Excusez-moi.
Oui, le fait que M. Legault avait quand même dit qu'il fallait exploiter nos ressources naturelles et pour finalement ben, fermer la porte complètement. Un exemple plus précis, là, Génial Québec. Alors, ça m'a désappointé beaucoup. Moi, j'ai une espèce d'admiration sans borne pour ce que la Norvège a fait. Ils ont des programmes sociaux absolument généreux. Ils ont tout le transport électrique, etc. Et tout ça est financé par leur développement là, des ressources naturelles et ce qu'ils appellent le fonds souverain.
Oui.
Et ça, moi, je me dis, oh, j'aimerais tellement qu'on devienne la Norvège d'Amérique du Nord, là, tu sais, puis parce que oui, effectivement, j'y crois, là, le transport électrique, la transition vers des énergies plus vertes, mais en même temps, ben faut avoir les moyens de financer ça. Mais bref, ce sont plusieurs enjeux comme ça qui m'ont désappointé, le tramway aussi. Dans le contexte actuel, personnellement, je pense qu'on n'a pas les moyens d'un projet comme ça. Deuxièmement, je pense que c'est très handicapant pour les générations futures. Je pense aussi que c'est pas nécessairement le bon projet. Ça va prendre un projet, mais c'est pas le bon projet. Mais bref, c'est une accumulation de choses comme ça. Mm-hmm. Et quand Eric m'a contacté, on était en pleine pandémie. Il y a des choses sur lesquelles j'ai accroché là-dessus. Notamment le fait que Monsieur Robitaille, on ne pouvait pas poser de questions, sinon on était visé par des insultes et puis on était taxé de complotisme.
Oui, complotisme. Ouais.
Alors, moi, j'ai trouvé ça extrêmement malsain parce que je pense que quand on fait avaler des décisions aussi difficiles que ça à des citoyens, faut au moins avoir la décence de l'expliquer.
La présence de complotistes dans les rangs conservateurs, il y en a, là, je veux pas réduire le parti à ça, mais il y en a quand même. Est-ce que ça vous dérange pas?
J'imagine, mais on a abondamment cité une étude qui était beaucoup plus explicite là-dessus. Là, en fait, il s'agissait d'un échantillon d'individus qui avaient été questionnés. Et puis finalement, quand on regarde l'étude plus en profondeur, là, il y aurait des complotistes chez les conservateurs, mais il y en aurait dans les autres partis aussi.
Oui.
Et alors, vous savez, on vit dans un monde où ben les gens normalement sont libres et puis ils ont des pensées que moi je partage pas, et bien entendu, mais ils sont libres d'être membres de formations politiques et puis ou de participer ou d'être sympathisants. Puis comment on fait pour surveiller ça, puis questionner les gens? Ok, vous êtes ici, mais c'est quoi vos opinions? Je pense que c'est je dirais le prêt à payer d'une démocratie où on revendique la liberté de penser et de parler des individus. Ça vient avec, je pense.
Vous avez été ministre de Stephen Harper. Oui. En quoi les stratégies de cette époque vous inspirent-elles, les stratégies électorales?
Ben, à l'époque, évidemment, j'étais candidate. Là, moi, j'étais pas dans l'organisation, mais évidemment, ce qui était très clair, c'est qu'on avait un plan en 5 points, rappelez-vous. C'était une élection qui avait été très longue, hein, qui avait débuté en 2005 pour finir après Noël en 2006.
Oui, oui.
Et puis, alors il y avait eu une campagne avant Noël et une campagne après Noël. C'était très défini. On avait 5 points et on s'en allait dans cette direction-là et on ne visait pas à couvrir tous les angles. On visait à avoir à rester très concentré sur nos objectifs et passer notre message sur les objectifs qu'on s'était fixés. C'était comme ça qu'on fonctionnait.
C'est deux styles assez différents. Absolument. Stephen Harper et Éric Duhaime, n'est-ce pas?
Oui, absolument.
J'imagine absolument. J'imagine pas Stephen Harper ne pas payer ses taxes ou attendre après 14 avis pour ses taxes municipales. Je l'imagine pas.
Je suis d'accord avec vous. Moi non plus, je l'imagine pas.
Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire de taxes-là, d'abord? Est-ce que c'est pas vraiment étrange pour quelqu'un qui dit qu'il faut être rigoureux, tout ça? Est-ce que c'est une prise de position, je sais pas, moi, anti-État, que de dire je vais les faire niaiser jusqu'à la dernière
non. Limite? Ce que j'ai compris de l'histoire, et puis c'est vous-même d'ailleurs qui l'avez écrite, là, c'est que c'est un ami qui l'a dépanné.
Oui.
L'a mis en question.
Mais il a été averti 14 fois par lettre recommandée, entre autres. Donc, M. Duhaine devait être au courant. Puis ensuite, il y a ses taxes à lui qui est en retard. Puis ensuite, il y a Vidéotron, il me l'a dit. Il y a Hydro. C'est comme une espèce de pattern.
Faut faire attention parce que je pense que ça s'échelonne dans le temps. Okay. Je pense, entre autres, que l'histoire, notamment là, des factures d'électricité. Puis je vais être franche avec vous, j'ai suffisamment confiance en Éric que je lui ai pas posé de questions pointues là-dessus. Mais ce que j'ai lu, là, c'est que, notamment dans les factures d'électricité, là, c'est que il avait fait les paiements, mais ils n'étaient pas dans le bon compte.
Ah, c'est ça.
Alors ça, il l'a bien expliqué. Et ça, je pense que c'est des erreurs qui peuvent arriver là pour le commun des mortels. Là, pour ce qui est des taxes municipales, là, je comprends que l'entente c'était que Monsieur Lamy, oui. devait s'occuper de ça. Et ce que j'en comprends, c'est que quand les comptes de taxes ou les avis entraient, Monsieur Duhaime n'était pas informé de ça.
Ah bon.
Alors, je comprends l'histoire. Puis l'autre chose qui est importante de préciser, M. Robitaille, parce que j'ai posé, l'histoire a duré tellement longtemps que j'ai pas posé de questions, non, c'est faux, là, j'ai fini par poser des questions. Puis lui, il m'assure, là, il dit, j'ai jamais signé un courrier
recommandé.
Recommandé.
OK.
Alors, je sais pas d'où ça vient. À un moment donné, vous savez, ça me fait penser un peu à l'histoire, là, tu sais, de la grenouille, t'es malade, là, il y avait quelque chose de vert, et puis, là, ça a fini que t'as été malade parce que t'avais avalé une grenouille, là, mais.
Ah, OK.
ça a comme grossi, exagérément, je pense, cette histoire-là. Mais ceci étant dit, il en a pris la responsabilité. Il est conscient. Je dois dire à sa décharge parce que je le suis depuis 2 ans, là, comme faux, il a passé, je pense, les 2 dernières années dans sa voiture.
Ouais,
ouais. Honnêtement, je ne sais pas s'il y avait un domicile fixe, finalement. Il a parcouru partout la province à plusieurs reprises parce qu'il fallait faire énormément pour le parti. Il fallait créer des associations. Après ça, éventuellement, il a fallu tenir un congrès, faire... Vous savez, là, Éric a pris un parti à peu près à zéro. Alors, à sa décharge. Mais je pense que...
En terminant, je voulais juste poser, parce qu'il nous reste peu de temps, Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur, ça vous dit quoi?
Ben écoutez, moi, je suis plus membre de ce parti-là depuis déjà plus de 5 ans, enfin 6 ans. Je pense que je suis devenue indépendante. Écoutez, il y a eu une course à la chefferie. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une victoire relativement éclatante, là. Et je souhaite que tout le monde se rallie. Je pense que je leur souhaite évidemment de trouver un terrain d'entente parce que ce que je comprends, c'est qu'au Québec, il y avait peu ou pas d'appui là, parmi la députation. Mais tant mieux. Ils ont un chef. Espérons qu'ils vont pouvoir faire un bout de chemin comme ça parce que c'est quand même le 3e chef en quelques années seulement. Là.
Merci beaucoup, José Werner.
Ça fait plaisir. À la prochaine.
Oui, présidente de la campagne du Parti conservateur du Québec et sénatrice indépendante.